Bonjour à tous, je m'appelle Léa, je suis élève au lycée Paul Verlaine. Je fais la spécialité HGSP, qui est l'abréviation de Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. Cette année, nous avons travaillé principalement sur des sources de presse pour réaliser des veilles documentaires portant sur les événements d'actualité du continent américain. Nous commencerons par présenter les événements se déroulant au nord de l'Amérique pour finir avec ceux du sud. Et donc, je vais laisser la parole à Camille qui va débuter en nous parlant de la laïcité au Québec.
Donc bonjour, je m'appelle Camille et je vais vous parler de la laïcité au Québec. Donc au Canada, il y a une partie francophone qui est le Québec et qui a adopté une loi laïque en 2019 reprenant le modèle français. Donc les personnes qui exercent une autorité n'ont pas le droit de porter un signe religieux extérieur comme par exemple les professeurs. Mais du côté anglophone, donc le reste du pays, ils trouvent cette loi raciste et islamophobe comme avec des professeurs qui se font renvoyer car ils portent le voile musulman. On observe donc deux visions différentes sur cette loi. La partie anglophone est multiculturaliste et veut la liberté de montrer la religion que l'on pratique, tandis que la partie francophone, donc le Québec, veut plutôt le respect des principes laïques et la séparation de l'État et de la religion. Donc le pays subit du Québec bashing, qui consiste à associer cette loi à une loi raciste ou extrémiste. Il y a des associations qui sont contre cette loi, comme l'association des musulmans qui a diffusé des vidéos dans les écoles en disant que cette loi veut le contrôle et le tri des musulmans. Certaines personnalités se sont exprimées sur ce sujet. Sur Twitter, l'ambassadeur canadien affirme que cette loi est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'ancien ministre de la Justice qui déclare cela comme de la discrimination à l'embauche. Et donc j'ai trouvé ces informations sur l'hebdomadaire L'Express dans l'article datant de début 2022 nommé « Le modèle laïque québécois contesté » et cela concerne les relations État-religion.
Donc bonjour, je m'appelle Annabelle et je vais vous parler de l'abolition de la discrimination positive aux États-Unis. Donc la discrimination positive, c'est le fait de favoriser un certain groupe de personnes victimes de discrimination systématique en essayant de rétablir l'égalité des chances. Et donc l'égalité des chances, c'est le fait de vouloir que le statut social d'une personne ne dépende plus des caractéristiques morales, ethniques et religieuses. La discrimination positive a été créée aux États-Unis par l'ancien président Kennedy sous le nom d'Affirmative Action à la fin des années 60 en faveur des descendants d'esclaves. Elle servait à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité dans les entretiens d'embauche. Elle a été récemment utilisée dans l'attribution des marchés publics et dans l'admission dans les établissements d'enseignement supérieur sélectif. Alors, pourquoi la discrimination positive a été abolie? Le 29 juin 2023, la Cour suprême a supprimé le dispositif de discrimination positive basé sur l'origine ethnique dans les universités, car lors du mois de juin 2023, des plaintes ont été déposées contre l'université de Harvard et l'université de Caroline du Nord par l'association Students for Fair Admissions. Ils considèrent que la discrimination positive n'était qu'une autre forme de discrimination sociale et se faisait au détriment des autres étudiants en violation du 14e amendement et des lois sur les droits civiques. Nous avons quelques exemples d'arguments. Il y a les arguments pour cette suppression, comme le juge Clarence Thomas, le deuxième juge noir siégeant à la Cour, s'opposant historiquement à la discrimination positive. Il l'a critiqué de préférence sans contrôle basée sur la race, conçue pour assurer un mélange racial particulier dans les classes, alors qu'il en avait bénéficié pour rentrer à Harvard. Mais il y a des arguments contre cette suppression, comme Ketanji Brown Jackson, première femme noire à siéger à la Cour suprême, qui qualifie cette décision de véritable tragédie pour nous tous. Le fait de considérer que la race est sans importance en droit ne la rend pas sans importance dans la vie. Donc, pour conclure, la Cour suprême est divisée sur cette question. À cause de cette abolition, il y aura une baisse du nombre d'étudiants de couleur noire ou alors latino, car ils se demandent alors s'ils ont leur place ou ils échoueront l'admission sélective dans les universités sans la discrimination positive.
Moi, c'est Rose.
Bonjour, je m'appelle Cassandre. Donc, pour commencer, quel est votre sujet?
Donc, notre sujet, c'est l'augmentation de l'antisémitisme aux États-Unis. On a pu remarquer ce fait par un événement s'étant passé en octobre 2023. Cela se rapprochera au thème des relations État et religion.
Qu'est-ce que l'antisémitisme?
L'antisémitisme, c'est une forme de racisme principalement dirigée envers les Juifs, avec des violences physiques, des menaces, des violences envers leurs biens ou encore leur lieu de culte.
Pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé en octobre 2023 ?
Donc le 7 octobre correspond à l'attaque du Hamas en Israël, qui est aussi le commencement de cette augmentation. 400% correspond au pourcentage d'augmentation de ces actes antisémites.
Quel est donc le lien avec les États-Unis ?
Cette augmentation impacte les États-Unis et plus précisément les personnes juives, puisqu'elles se font agresser physiquement et verbalement. Ils reçoivent aussi des menaces de mort ainsi que des croix gammées sur leur maison ou sur les bâtiments du campus dans les universités.
Finalement, quelles en sont les conséquences sur les étudiants juifs ?
Il y a alors plusieurs conséquences, puisqu'il est arrivé récemment que les étudiants juifs s'enferment dans la bibliothèque universitaire d'un campus, puisque d'autres étudiants pro-palestiniens les menaçaient de mort et tentaient même d'enfoncer les portes du bâtiment. De nombreux étudiants ont quitté le campus suite à ces événements.
Mais l'État a-t-il décidé d'agir contre ça ?
Pour lutter contre l'antisémitisme, la Maison Blanche sanctionne les responsables universités de ne pas limiter l'antisémitisme en les menaçant de supprimer les subventions FEREDAL, qui est une aide financière assez importante pour les universités. Comme solution, le président a décidé de créer une loi interdisant toute discrimination dans des lieux à activité d'aide financière, comme ici les universités.
Et en France, comment ça se passe ?
1518 correspond au nombre d'actes antisémites en France depuis 2023. 500% correspond à l'augmentation de ces actes depuis le 7 octobre et entre l'année de 2022 à 2023. Le nombre d'actes antisémites a triplé. Cependant, je n'ai pas beaucoup de chiffres récents pour les États-Unis puisque cette augmentation est récente. Récemment, une marche civique a été organisée par Gérard Larcher, qui est le président du Sénat, ainsi que par Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, le 12 novembre dernier. Elle a réuni plus de 100 000 personnes à Paris pour lutter contre cette augmentation de l'antisémitisme.
Donc pour conclure, nous pouvons dire que cette augmentation a impacté les États-Unis, mais que l'État a cependant agi afin de limiter cette discrimination dans les campus envers les étudiants juifs.
Bonjour, je suis Alizée, élève de première au lycée Verlaine, et aujourd'hui je ne vais pas parler de moi, mais plutôt du destin tragique de Kenneth Eugene Smith. Ce thème se raccroche au thème s'informer. Alors vous êtes prêts à vous cultiver ? C'est parti ! Kenneth Eugene Smith est un jeune américain qui a été jugé condamnable à mort en 1988 pour le meurtre de sa femme. Ainsi, en 2022, il y a eu une tentative de mort par injection létale, or cela a été un échec. Donc, en dernier recours, le centre pénitentiaire de l'Alabama a pris la décision de l'exécuter le jeudi 25 janvier 2024 par hypoxie à l'azote. Le débat qui s'y oppose, ce n'est pas le fait que ce soit légal ou autre, puisque l'Alabama fait partie des 27 États sur les 50 des États-Unis que le gouvernement et l'armée maintiennent la peine de mort pour des crimes, mais donc le problème c'est qu'il y a eu un manque de recul, et ce manque de recul il est dû principalement aux groupes pharmaceutiques qui siègent la plupart du temps en Europe, qui sont contre cette peine de mort, et donc vont créer une pénurie volontaire, car ils refusent de transférer les portions de médicaments nécessaires pour la prise par intraveineuse, qui entraîne une paralysie mortelle. Et parce qu'il n'y a pas qu'un problème, les gardes pénitentiaires ne disposent pas des compétences requises pour ce genre de pratique. Ainsi, Kenneth Eugene Smith, il a subi ce que les porcs vivent avant l'abattoir, soit l'hypoxie à l'azote. Ces derniers ont une réaction de panique par des étouffements alors qu'ils étaient sédatés. Donc le problème, c'est de savoir si cette mise à mort, qui a duré 20 minutes au lieu habituellement de 2 à 3 minutes, a été sans aucune souffrance et donc légale, ou alors son contraire, et de ce fait, ce soit un crime. Faites-vous donc partie du camp de l'ONU où la thèse est qu'il a souffert, comme nous le précise Ravina Shahdazani, le porte-parole de l'ONU, ou alors faites-vous partie du camp de Mike Christian, le représentant de l'Oklahoma, qui soutient la thèse que c'est une exécution dite humaine ? Telle est la question, comme dirait Shakespeare. Je parle de sources sûres, vous pouvez aller jeter un coup d'œil dans le journal Le Monde, ou encore aller faire un tour en Suisse avec le journal Blick.
Bonjour, je m'appelle Lali et je vais vous présenter ma veille documentaire se raccrochant au thème de la démocratie portant sur le travail des enfants aux États-Unis, tiré d'un article écrit le 25 mai 2023 et paru dans le journal hebdomadaire français L'Express. Le travail des enfants a commencé à l'époque coloniale de l'Amérique. Aujourd'hui, la loi en vigueur est le Fair Labor Standard Act, datant de 1938. Elle réglemente le travail des mineurs américains. En revanche, chaque État présente des lois diverses sur ce sujet. Je me suis intéressée principalement aux lois et mesures prises par ces derniers, comme l'Arkansas qui a signé une loi facilitant le travail des enfants en mars 2023. Mais ce n'était pas le seul. Le Minnesota, l'Ohio ou encore le New Jersey appliquent des lois révoltantes de nos jours. L'évolution de ces lois est regrettable et engendre une détérioration des conditions de travail et une diminution des contrôles. Mais on retrouve aussi des abus importants avec par exemple des enfants de 10 ans recrutés chez McDonald's. On dénombre également une augmentation inquiétante de 69% au niveau de l'embauche clandestine d'enfants depuis 2018. Certaines entreprises en profitent aussi pour utiliser une main-d'œuvre de jeunes immigrés. Certains élus se révoltent de la situation. Le gouvernement cherche alors à apporter des solutions en renforçant les contrôles. Ou par exemple, l'État de l'Arkansas a quant à lui signé une loi qui accroît le montant des pénalités sur le travail illégal des enfants. On se demande alors quelle est la place des enfants aujourd'hui aux États-Unis. Merci de m'avoir écouté.
Bonjour, après m'être informée sur différents articles issus de journaux internet tels que Le Monde, un quotidien français, ou encore L'Express, un magazine hebdomadaire, j'ai découvert que les États-Unis avaient lancé un procès historique contre Google en fin 2023. Ce sujet se rattache au thème s'informer du programme. Google, ayant pour maison mère Alphabet, une entreprise américaine, est devenu le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Mes recherches ont été notamment trouvées en passant par celui-ci. Selon Kenneth Dintzer, l'avocat du gouvernement des États-Unis, Google verserait 10 milliards de dollars chaque année à Apple et d'autres fabricants pour s'assurer que son moteur de recherche s'affiche par défaut sur ses smartphones. Le directeur juridique d'Alphabet, Kent Walker, a répondu à ces accusations en expliquant, je cite, « Notre succès est mérité, les gens n'utilisent pas Google parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce qu'ils le veulent ». Pour John Lopatka, un professeur en droit, ce procès amènera, peu importe le verdict, à une forte incidence sur la manière dont les plateformes technologiques fonctionneront à l'avenir. Après plusieurs recherches sur la finalité de cette affaire, je n'ai pu trouver comme information qu'un article qui appartient au Figaro, datant du 29 décembre, qui explique que pour mettre un terme au procès, Google aurait trouvé un accord avec les États-Unis en acceptant de payer 700 millions de dollars. Cette affaire a été peu médiatisée, il était difficile de trouver des informations certaines sur celle-ci. En effet, le procès a été fait à huis clos et les pièces à conviction et informations importantes de l'affaire sont restées privées par peur pour Google de laisser échapper certaines de leurs données confidentielles. Le numérique dont Google fait partie de notre quotidien, eux savent beaucoup sur nous, pourtant cette histoire nous montre qu'ils ne souhaitent pas l'inverse.
Bonjour, nous nous présentons, nous sommes
Raphaël
et Kylian, élèves du lycée Verlaine à Rethel. Nous allons aujourd'hui parler de la décision de Joe Biden qui a décidé de relancer la construction du mur qui sépare les États-Unis du Mexique, ce qui est donc relié directement au thème des frontières. En effet, l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, fut contraint de continuer la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique, débuté par Trump lors de son mandat, car les fonds alloués à la construction du mur n'ont pas été rédigés par les républicains au Congrès. Selon Alejandro Mayorkas, ministre de la Sécurité intérieure, il faut construire le mur dans la vallée du Rio Grande, zone dans laquelle il y a beaucoup d'entrées illégales. Cette décision est qualifiée de volte-face car Joe Biden avait promis, en janvier 2021, qu'il ne construirait pas une seule parcelle du mur.
Trump affirme avoir eu raison en construisant 900 km de mur et demande des excuses de la part de Joe Biden qui a été considéré comme laxiste sur le sujet de l'immigration. Le président mexicain est déçu et qualifie cet acte de pas en arrière qui ne réglera pas les problèmes de l'immigration. Des expulsions des Sud-Américains par milliers hors du territoire états-unien ont été effectuées par le gouvernement. Cette décision pose également des problèmes sur la biodiversité et les écosystèmes présents. Pour cette présentation, nous avons utilisé un article rédigé par l'AFP le 20 mai 2023. L'AFP est une agence de presse fondée en 1944 qui prend la suite d'Avas, anciennement l'agence de presse la plus vieille du monde. Merci de nous avoir écoutés.
Bonjour, je m'appelle Guillaume et aujourd'hui je vais vous présenter pourquoi l'âge de Joe Biden inquiète les électeurs. Pour commencer, qui est Joe Biden ? Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton. C'est un homme d'État américain. Il est membre du Parti démocrate. Il est sénateur des États-Unis de 1973 à 2009, puis ensuite vice-président des États-Unis de 2009 à 2017. Et pour finir, il est président actuel des États-Unis depuis 2021. Alors, Joe Biden est maintenant âgé de 81 ans. Cela inquiète les futurs électeurs car le président des États-Unis commence à oublier des informations importantes comme la date de son mandat ou bien encore la date de la mort de son beau-fils. Il a aussi confondu François Mitterrand ainsi que Emmanuel Macron, par exemple. Donc cela a eu pour effet d'inquiéter les électeurs, car personne ne veut d'un homme qui perd la tête aux commandes d'un pays. D'après une étude, 76% des gens énoncent que Joe Biden n'est plus qualifié pour tenir la tête d'un pays et qu'il garantit un mauvais avenir pour les États-Unis.
La perte de mémoire de Joe Biden a été montrée grâce à un rapport d'un procureur nommé Robert Ure, qui a été chargé d'enquêter sur les accusations de mauvaise gestion de documents confidentiels. Au cours des 388 pages du rapport, Robert Ure évoque un entretien qu'il a eu avec Joe Biden et où il a constaté que la mémoire du président avait empiré. En guise de conclusion, l'âge de Joe Biden fait énormément débat sur l'avenir des États-Unis et cela fragilise sa future élection présidentielle. Nos sources sont le journal Le Monde ainsi que la chaîne de télévision BFM TV.
Bonjour, je m'appelle Emma Bello et je vais vous présenter la traversée de la frontière américaine par les Mexicains. Mon sujet se rattache donc au thème des frontières que nous avons vues en AGGSP. Dans un premier temps, je vais vous présenter la frontière, puis pourquoi les Mexicains veulent se rendre aux États-Unis, quels sont les problèmes que cela pose et enfin les dangers de cette traversée. La frontière entre les États-Unis et le Mexique se situe entre les deux États de Tijuana et San Diego. Elle a été construite à partir de 1844. La frontière entre les deux États mesure environ 3150 km et elle a pour but d'empêcher les migrants mexicains de se rendre clandestinement aux États-Unis. Nous allons donc pouvoir nous demander pourquoi ces Mexicains veulent se rendre aux États-Unis. La majorité des immigrés mexicains aux États-Unis sont partis pour des raisons économiques, d'après un recensement de la population réalisé au Mexique en 2006. 76% des migrants sont avant tout à la recherche d'un meilleur emploi ainsi que de meilleures conditions de vie. Au Mexique, 44% de la population est en situation de pauvreté, dont la plupart en zone urbaine, 81% contre 19% en zone rurale. Au Mexique, il faut savoir que la plupart des personnes travaillent pour un salaire moyen de 652 € par mois. En réalité, beaucoup d'employés gagnent nettement moins que cette moyenne, puisque le salaire minimum journalier est de 173 pesos, qui fait environ 8,70 € par jour. Tandis qu'un Américain avec un salaire minimum de 15 $ par heure, un travailleur américain pourrait toucher jusqu'à 2 400 $ par mois, soit environ 2 191 € par mois. Un Américain, lui, va toucher environ du coup 7,25 $ par heure. Les problèmes que les Mexicains se rendent aux États-Unis sont principalement économiques. Les États-Unis vont accueillir les Mexicains clandestinement et vont demander une nouvelle vie dans ce pays, mais ils n'ont pas les moyens. Et les États-Unis vont donc devoir leur fournir des aides et un salaire. Donc les Américains vont avoir moins d'emplois et moins de ressources économiques pour les habitants de leur pays, vu que les Mexicains les auront prises. Maintenant, nous allons voir comment se passe une traversée pour un migrant mexicain afin de se rendre clandestinement aux États-Unis. Il existe différentes façons pour eux d'arriver, par exemple la voie terrestre, où il y a beaucoup de risques pour se rendre dans l'autre pays. Ils ont des risques de se faire arrêter par les gardes de frontières et de se faire envoyer dans leur pays d'origine.
Bonjour, nous nous appelons Manuela et Noémie en classe de première AGGSP du lycée Paul Verlaine.
Nous avons choisi un sujet sur l'augmentation des migrants du continent américain et qui se relie au thème des frontières. Nous avons toutes les deux utilisé comme principale source le magazine L'Actu créé en 1998.
Depuis quelques années, le taux de migration a fortement augmenté en Amérique. En effet, de plus en plus de familles, hommes, femmes, enfants, tentent de fuir vers d'autres pays pour différentes raisons, comme fuir les conditions de vie misérables ou la guerre de leur pays et d'avoir un accès à une vie meilleure.
Premièrement, depuis 2023, une des traversées connues empruntées par les migrants partant de l'Amérique du Sud vers l'Amérique centrale s'appelle la traversée du Darién. Celle-ci s'étend entre le Panama et la Colombie. Ici, de plus en plus d'enfants traversent cette jungle de 160 km de long appelée le Danpón del Darién, dans le but d'atteindre un jour le Mexique ou les États-Unis. Cependant, celle-ci est occupée par de nombreux trafiquants d'armes et de drogue et jonchée de nombreux obstacles naturels comme des fleuves, racines d'arbres et roches.
De plus, l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis en 2017 instaure une politique de tolérance zéro et un mur entre le Mexique et les États-Unis dans le but de restreindre l'accès des migrants vers les États-Unis. Cela a engendré la séparation de certaines familles lorsqu'une partie avait atteint leur objectif et que l'autre partie n'ait pas eu le temps de les rejoindre avant cette restriction, ce qui engendre des conséquences psychologiques du côté des enfants principalement. Cependant, Joe Biden, depuis sa campagne présidentielle, a pour but de retirer la politique de Trump. Quand il a été élu, il a réussi à lever la politique de tolérance zéro et à mettre en place la réunification des familles séparées précédemment.
Les migrants veulent de plus en plus fuir leur pays et les dangers que peut représenter celui-ci en partant en direction de l'Amérique du Nord principalement. Plus les années passent, plus le nombre de migrants augmente également, ce qui pose problème aux pays accueillant les migrants. N'existerait-il pas d'autres solutions pour aider ces personnes dans le besoin ?
Bonjour à tous, nous sommes Léa et Agathe et nous allons vous parler des tensions qui règnent entre le Guyana et le Venezuela au sujet de l'Essequibo. Ce terme se rattache aux frontières. Pour réaliser cette veille documentaire, nous nous sommes servis d'un article du Parisien, qui est un journal quotidien régional français fondé en 1944 et diffusé en Île-de-France. Cet article a été écrit par Léo Agas. Léa s'est également servie de la radio publique d'information française France Info pour obtenir des informations complémentaires. Tout d'abord, le Venezuela et le Guyana sont deux pays distincts en Amérique du Sud. Le différend remonte à l'époque coloniale, lorsque la région d'Essequibo était sous domination coloniale britannique. Le Venezuela a toujours revendiqué cette région, affirmant que le traité de 1899, par lequel le territoire a été attribué à la Guyane britannique, était illégal. L'Essequibo est une zone riche en ressources naturelles, notamment le pétrole. Ce territoire est sous domination du Guyana. Chacun des deux pays admet des raisonnements et attentes différents au sujet de l'Essequibo. Le Guyana revendique ses droits sur l'Essequibo, notamment en se fondant sur le fait que la frontière entre les deux pays date de l'époque coloniale anglaise et que celle-ci a été entérinée en 1899 par une cour d'arbitrage. Le Venezuela, lui, soutient que le fleuve d'Essequibo devrait être la frontière naturelle comme en 1777, à l'époque de l'Empire espagnol.
À partir de 2015, un regain de tension a débuté lorsque le Guyana annonçait que des prospections menées par la firme américaine ExxonMobil révélaient d'immenses réserves de pétrole et de gaz naturel dans la région frontalière. De plus, le Guyana a lancé des appels d'offres pour des blocs pétroliers dans la zone au cœur de l'été 2023. Enfin, le 14 décembre 2024, le Guyana et le Venezuela sont tombés d'accord pour ne pas se menacer ou utiliser la force l'un contre l'autre sous aucun prétexte. Cette déclaration commune a été publiée à l'issue d'un sommet entre les chefs d'État des deux pays. Pour conclure, le conflit entre le Venezuela et le Guyana est omniprésent depuis des années. Chaque pays a le même objectif, posséder la zone de l'Essequibo. En mettant l'accent sur la coopération plutôt que sur la confrontation, il est possible d'espérer un avenir où la paix et la stabilité règnent, ouvrant la voie à un développement harmonieux et bénéfique pour la région tout entière.
Bonjour à tous, je m'appelle Lana et je suis une élève du lycée Paul Verlaine de Rethel. Étant en classe de première à GGSP, je peux aujourd'hui vous présenter un sujet particulièrement touchant, qui plus est, se rattachant à un des thèmes qui sera enseigné durant l'année, étudier les décisions politiques du monde, les frontières. Je vais dès à présent vous expliquer le grand flux d'immigration à New York et son importance sur le monde. Tout d'abord, nous allons revoir certaines dates qui ont été importantes et ont participé à cet événement. En 1980, la ville de New York met en place une nouvelle réforme visant à fournir à toute personne dans le besoin un lit. Par la suite, en 2014, une grande crise migrante a lieu sous le gouvernement d'Obama. Nous retrouvons aussi en 2016 l'envie de Donald Trump de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique, amenant donc au débat sur l'immigration. Enfin, nous avons comme dernière date importante et à prendre en compte absolument l'année 2022. En effet, c'est durant cette année, plus précisément au printemps, que Greg Abbott, le chef de l'État du Texas décide, afin de pousser Donald Trump à ses limites et faire fermer les frontières une fois pour toutes, de mettre en œuvre la gratuité des bus pour tout migrant voulant changer d'État, surtout dans le but de se rendre dans les États du Nord des États-Unis.
Suite aux nombreux migrants arrivés du monde entier et se diversifiant de plus en plus, le maire de New York, Eric Adams, s'inquiète énormément pour sa ville. Il devra, dû au trop fort taux d'immigrés, chercher à réduire ceux-ci par de nombreux moyens, au risque de perdre jusqu'à 12 milliards de dollars, soit une somme colossale. Ce même homme met donc en place une réforme visant à limiter le temps possible et légal passé sur le territoire. De plus, il décide aussi d'offrir aux immigrés un billet d'avion afin qu'ils retournent dans leur pays respectif. C'est donc une forme de grande exclusion. De nombreux débats se forment autour de cette politique entreprise par Eric Adams, mais aussi par de nombreux autres États. Le souci étant, faut-il intégrer les immigrés à la population au risque de perdre une part de patrimoine économique, mais en partant d'un geste de grand altruisme, ou bien ne pas les intégrer au risque de causer la perte de nombreuses familles et personnes dans le besoin. C'est donc un sujet énormément controversé qui reste d'actualité, sur lequel tout le monde peut se former un avis.
S'informer sur l'actualité à l'international est essentiel afin de garder une bonne culture générale, surtout en tant que spécialiste AGGSP et dans le cadre de la préparation à des concours de type Sciences Po. Je m'appelle Louane et en lisant le numéro de courrier international du 20 juillet dernier, je me suis intéressée au cas du mur entre la République dominicaine et Haïti en construction, et plus particulièrement aux causes de sa construction. Pour commencer, ces deux pays d'Amérique du Nord possèdent des situations économiques radicalement opposées, bien qu'ils soient limitrophes. La République dominicaine est riche et a besoin de faire tourner ses entreprises, tandis que Haïti est un pays pauvre avec un taux de chômage élevé. Ce dernier pays voit donc ses habitants traverser la frontière vers la République dominicaine pour aller y travailler, ce qui crée une réciprocité économique puisque les Haïtiens traversent la frontière pour gagner leur vie, tandis que les Dominicains ont besoin de travailleurs pour constituer de la main-d'œuvre. Néanmoins, certains habitants malveillants profitent de l'ouverture de la limite territoriale pour s'installer en République dominicaine clandestinement, voler ainsi que pour faire du trafic. Le gouvernement dominicain a donc réagi et a lancé la construction d'un mur en béton il y a 2 ans afin de se protéger notamment de la contrebande et de l'immigration clandestine. Au total, il mesurera 164 km de long, 20 cm d'épaisseur et pas moins de 4 km de hauteur. Plus récemment, en septembre 2023, les agriculteurs haïtiens ont débuté la construction d'un canal d'irrigation détournant l'eau d'une rivière commune afin de provoquer l'état adverse, ayant pour conséquence la fermeture des frontières entre les deux pays. Malheureusement, ce mur n'est pas le premier à être construit à la suite de différends à l'échelle régionale, puisqu'un mur entre le Mexique et les États-Unis est en cours de construction actuellement.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Antonin, je suis en classe de première au lycée Paul Verlaine. Pour moi, je vais vous présenter en quoi le programme de Javier Milei, le président argentin, peut être problématique pour l'Argentine. Donc, il se rattache au thème de la démocratie. En effet, on peut voir plusieurs parties de son programme qui sont assez problématiques. Tout d'abord, il souhaite réformer plusieurs ministères, donc supprimer par exemple celui de la culture, de la santé, du travail, du développement social et de l'éducation. Ensuite, pour vous remettre dans le contexte, il y a une forte inflation en Argentine. Donc le peso argentin a une inflation de 28%. Il souhaite un passage du peso argentin au dollar américain et par ce fait supprimer la Banque centrale argentine, ce qui causerait une grande dépendance aux Américains sur le plan économique. Et enfin, il souhaite aussi légaliser certains actes illégaux dans le but de réduire l'inflation qui touche actuellement le pays.
Bonjour, je m'appelle Canel. Nous avons pu constater que même le continent américain vit des moments difficiles, alors que celui-ci est tout de même bien développé. Les élèves de première du lycée Paul Verlaine, faisant la spécialité AGGSP, qui signifie Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques, ont, grâce à cette spécialité, pu rattacher les événements en Amérique aux thématiques suivantes, qui sont la démocratie, les dynamiques des puissances internationales, les frontières, s'informer et analyser les relations entre États et religions. Nous encourageons donc fortement les jeunes à s'intéresser à l'actualité, que ce soit celle de notre pays, encore de l'étranger, car plus nous nous intéressons à celle-ci, plus nous nous ouvrons au monde extérieur, en enrichissant également notre culture générale. Pour y parvenir, il faut bien sûr avoir recours aux médias comme la radio ou encore la presse, et ce dans le but de devenir des citoyens éclairés. Merci pour votre attention.
FR3 vous souhaite une douce nuit. À demain.